Aurélie Sfèze, rendez-vous, place du marché.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au pays des volcans et des mystères. Hier, vous étiez à Sainte-Marie en Martinique avec Antoine Lee et aujourd'hui, retour sur le continent, dans cette France du centre des terres, celle des pâturages, des volcans et des mystères. Et notre micro France Inter s'est installé au marché de Saint-Flour, chez Gréco, un bistrot auvergnat, comme on les aime, en plein milieu des étals de légumes, de fromages et de miel des montagnes. Ici, on voyage au centre de la Terre, dans des paysages lunaires. On se shoote à l'air pur et on est accro à la douceur. On dit que c'est un endroit magnétique et que la nature règne sur un monde mystérieux. Hier, un couple d'Anglais en vacances m'a raconté qu'ils faisaient tous les ans une halte à Saint-Flour pour se ressourcer, faire du yoga dans les montagnes et boucler leur séjour par une orgie de fromage. On est dans la vieille ville de Saint-Flour et sur France Inter et on va prendre de la hauteur avec nos invités. Je vous présente Monsieur le Curé. Alors, tout le monde vous connaît ici, monsieur le curé, Philippe Boyer, je vous appelais Philippe.
Oui, on connaît tout le monde ici, c'est un petit village, hein, Saint-Flour, donc c'est bien de rencontrer les personnes au marché comme ailleurs.
Vous êtes venu avec votre ami, vous vous connaissez tous les deux, vous êtes venu avec Serge Viera.
Oui, nous connaissons depuis un certain temps maintenant avec Serge, c'est un homme qui a beaucoup de valeur et qui est très présent celui-ci.
Serge, bonjour.
Bonjour.
Serge Viera, vous êtes chef cuisinier, 2 étoiles au Michelin. Votre restaurant a un nom qui colle ici à ce territoire, je trouve, c'est Saudade, à la fois le Portugal et à la fois la douceur du Cantal. Il se trouve juste à côté d'ici et vous êtes venu nous rejoindre et on est très 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 contents de vous rencontrer.
Bah, merci, oui c'est vrai qu'on voulait un petit clin d'œil à mes origines aussi puisque je suis né en France, mais Saudade, voilà, c'est un petit clin d'œil à mes parents, à leur histoire et à cette nostalgie un peu heureuse, voilà, qu'on peut retrouver aussi bien au Portugal, mais surtout dans certains restaurants et puis ici dans le Cantal.
Et puis en deuxième partie d'émission, on vous présentera des femmes sages et courageuses, mais en attendant, on va écouter un peu de musique. Est-ce que vous aimez la musique, Père Philippe ?
Oui, tout style de musique. J'écoute beaucoup de musique classique, bien sûr.
Est-ce que vous connaissez François and the Atlas Mountains ?
Et non. On va écouter François and the Atlas Mountains, revue.
Et c'est le choix de Djoubaka.
Je l'ai revu au coin de la rue. Il voulait me faire croire au hasard. J'avais toujours voulu le revoir. Et il était soudain réapparu. Je l'ai emmené chez moi pour qu'il revoie. Qu'il avait fait de nous. Ceux des gens qu'on n'avait pas revus. Le soir venant, il est retourné à la rue. Le soir venu, je pensais à lui. Sa bouche la même et ses yeux pointus. Sa voix, il n'avait rien perdu. C'était le même que j'avais aimé. Que j'avais aimé. Que j'avais aimé. Que j'avais aimé. Il est revenu, les poings serrés et la bouche cousue. Il voulait me confier un secret. Au lieu de ça, il m'a embrassée. il a tout gardé.
On est bien sur France Inter, ici au creux des vallons d'Auvergne, au marché de la petite ville de Saint-Flour. Et on est ici, au bistrot de Franck Gréco, avec vous deux, Philippe Boyer, vous êtes abbé de la cathédrale de Saint-Flour, et Serge Vieira, vous êtes chef étoilé au restaurant Le Saoudade, à quelques encablures de Saint-Flour. Vous vous êtes rencontrés comment tous les deux ?
Il me semble qu'avant qu'il ait baptisé mes enfants, on s'était vus dans mon restaurant, je crois, de mémoire. On s'est appréciés tout de suite, je crois, et c'est comme ça que les choses sont faites après par la suite.
Oui, alors bon, moi je crois que c'est ce qui a été très important dans notre rencontre, hormis la préparation des baptêmes de ses enfants aussi, c'est la rencontre avec sa famille et puis son amour pour la gastronomie, certes, et en même temps, le fait de valoriser tout ce qui est la culture culinaire avec des produits locaux.
Qu'est-ce que vous avez en commun tous les deux ? Le chef étoilé, le curé de la cathédrale de Saint-Flour, à vous deux, vous rassemblez. La messe rassemble, la table rassemble, et peut-être qu'à vous deux, vous représentez la scène.
Peut-être, après je sais que Philippe a aussi une expérience dans mon univers, donc... Je préfère le laisser raconter, mais je crois que c'est aussi pour ça qu'il comprend bien notre travail, l'exigence de ce qu'on vit tous les jours.
Père Philippe, vous avez tenu une brasserie à Paris, avant de devenir un homme d'église.
Oui, dans la vie d'avant. C'est ce qui fait cet amour-là aussi, cette passion des arts culinaires, que ce soit la cuisine, que ce soit la messe ou une célébration, c'est une liturgie. Elle doit être bien faite, bien célébrée. C'est un rituel. Et l'excellence aujourd'hui est dans la dynamique de la cuisine et du service. On le voit avec les grandes émissions nationales. Je dis que nous, d'un point de vue tout simplement religieux, on devrait redécouvrir ce côté un peu théâtralisé d'une célébration, d'un accueil jusqu'à la sortie.
Père Philippe, on voit à la télévision ces émissions Top Chef, la glorification des chefs cuisiniers. On pourrait faire Top Curé, non ?
Je ne sais pas si on pouvait faire Top Curé, mais c'est sûr, ce qui nous rassemble, c'est quand même l'amour des gens. Je crois qu'on ne peut pas transmettre la parole de Dieu ou un accueil au restaurant si on n'aime pas les gens. On aime rencontrer des personnalités, on aime échanger avec eux, on aime les émotions qu'on peut partager avec telle ou telle personne, et pas forcément que des gens qui peuvent être d'accord avec nous. Le débat de discussion, d'échange contradictoire, c'est hyper intéressant. Et...
Parce qu'à table, qu'est-ce qu'on fait ? À table, on discute, mais on s'engueule aussi. On parle politique... Et à la messe aussi, d'ailleurs.
D'accord, mais d'abord, on regarde ce qui s'y vit, ce qui s'y passe. On regarde celui qui vient dans une église et on regarde comment ça se passe.
D'abord, on observe.
Apprécie. On observe, on apprécie ou pas tout ce qui nous entoure. Et après, on prend part ou pas.
Vous avez un bon coup de fourchette, c'est ce qu'on nous a dit.
Ah ben, tout ce qu'on vous dit est sûrement très vrai. Hein. Oui, j'ai un bon coup de fourchette, j'ai une passion pour la cuisine, bien sûr, le vin, les vins, spécialement le domaine du vignoble champenois.
Qu'est-ce qui vous a amené à tout quitter pour devenir prêtre, Philippe Boyer ? Je pense qu'on ne devient pas prêtre par hasard. J'ai en tête l'histoire de Georges Bataille qui a fait son séminaire à Saint-Flour. Georges Bataille a voulu devenir prêtre parce qu'il avait eu un chagrin d'amour insurmontable. Est-ce que vous aussi ?
Ah non, pour l'instant, on ne sait jamais. Ça peut peut-être venir après la cinquantaine. Mais pour l'instant, je n'ai pas eu ces troubles-là. Ce qui est important... Peut-être, c'est que depuis tout petit, j'ai toujours senti que j'étais très aimé de Dieu. Alors j'ai dit à un moment ou l'autre, faudra que tu donnes quelque chose de toi-même, ta vie. J'ai eu deux copines dans ma vie, qui sont mariées maintenant, et elles sont sûrement très heureuses. Ce qui est important, je pense, c'est de remettre cette dimension, justement, de spiritualité dans le cœur des hommes, en les aidant à regarder ce qui est beau.
À 16 ans, vous êtes arrivé à Paris, avec votre petite valise, parce qu'il fallait nourrir la famille, et vous avez décidé de travailler au resto. Et puis, à un moment, un déclic, vous changez de crèmerie.
Alors, ce qui s'est ouvert à moi, c'est que j'ai travaillé très jeune, dû à une situation familiale difficile, papa était malade. On apprend d'abord à écouter, à être auprès d'un patron qui va vous aider, vous dire comment il faut faire, etc. Soit vous n'écoutez, ou sinon vous partez. Et puis vous apprenez petit à petit à travailler dur.
Donc avec humilité.
Avec une certaine humilité, vous gagnez aussi de l'argent que vous dépensez, parce qu'on s'amuse quand même un peu aussi. Hein. Mais après, vous pensez aussi à ceux et celles qui sont au pays, à vos parents, qu'il faut aider d'une manière ou d'une autre. Et après, au bout de 6 ans, c'est-à-dire j'avais le choix, soit d'acheter une affaire et de prendre une affaire pas loin de la Tour Eiffel. Peut-être aujourd'hui j'aurais une ou deux affaires, mais l'essentiel c'est toujours où se situe son propre bonheur. Serge, c'est dans la cuisine, dans l'accompagnement de sa famille, dans l'accompagnement de ceux et de celles qui travaillent avec lui. Bien, nous aussi, ça doit être un peu cela. Qu'est-ce qu'on donne aux êtres ?
Vous avez fait la noce, hein, quand même.
Un petit peu comme vous, sûrement. Mais je crois qu'il faut être heureux, il faut vivre en plein milieu des êtres d'aujourd'hui. Sinon, on est complètement déconnecté. On reproche constamment à l'Église d'être loin du monde. Mais moi, je vis complètement dans le monde. Je m'engueule de temps en temps, on échange quelques paroles un peu vives. Je crois que c'est intéressant.
Vous aussi, vous avez ça en commun avec le père Philippe, Serge Vera, le travail, la famille. Vous avez une famille portugaise. Votre père a été ouvrier chez Michelin, ce qui est rigolo, avec vos deux étoiles Michelin, ça fait la blague. Il y avait beaucoup d'humilité dans la famille. Vous avez travaillé dur, vous aussi.
Oui, c'est ça. Moi, j'ai démarré l'apprentissage très jeune aussi, à 16 ans. Je voulais que mes parents, qui arrivaient à l'âge de la retraite, puissent être un peu soulagés des études des plus jeunes. Et c'est vrai que le fait d'avoir subi quelques échecs en recrutement, dans les écoles hôtelières, je me dis, bon, ben, on va passer par l'apprentissage. Et au final, c'était le meilleur chemin, parce qu'on est tout de suite dans le monde du travail. Et comme le disait Philippe, il faut savoir écouter. Et quand on a 16 ans, quand on ne sait pas grand-chose, quand on sort un peu des jupons des parents, eh ben, il faut être là, à l'écoute de son chef d'entreprise. Et c'est là où vous comprenez si vous allez aimer ça. Moi, j'avais envie d'une vie complètement différente, plus mouvementée pour moi. Et c'est vrai que la restauration m'a plu, parce que je travaillais les week-ends, je travaillais pas en semaine, je travaillais le soir, un peu le matin, pas l'après-midi. Et j'ai beaucoup apprécié cette vie décalée, justement, différente du métro boulot dodo. Mon père faisait les 3-8 chez Michelin, donc avec un roulement, donc on le voyait pas beaucoup, toujours fatigué.
Et votre maman ?
Et ma maman, elle avait un vrai rôle important, parce que c'était la chef de maison, c'était elle qui fixait les règles à la maison avec, vous savez, 4 garçons et une fille. On a cultivé la terre, mon père faisait son vin. Ça a toujours bien marché, parce qu'on était proche, finalement, de la réalité.
Ouais.
On n'était pas déconnecté, quoi.
Ouais. La vocation, en fait, de devenir cuisinier, elle est venue chez vous tout petit, ou comme Philippe Boyer, vers 20 ans ?
Ce qui est passé, c'est que moi, je suis le 4e garçon. Eux, ils avaient 10 ans de plus que moi. Donc moi, à 6, 7, 8 ans, bah, je pouvais pas partir avec eux, draguer les filles, sortir un peu dans les bars, etc. Donc j'étais un peu bloqué à la maison avec les femmes, entre guillemets, qui préparaient le repas. Et ma grand-mère qui faisait son pain, etc. Et donc j'ai vécu dans ce monde féminin. C'est peut-être d'ailleurs ce qui fait un peu ma sensibilité pour la cuisine aujourd'hui, et puis une certaine cuisine que je pratique. Et en fait, j'ai été vraiment bercé dans l'univers de la cuisine faite par des femmes.
Ouais. Ça,
je pense que
ça vous a plu, ça ?
Ça m'a plu, mais sans m'en rendre conscience, en fait. C'est que moi, je voulais faire du dessin industriel. J'avais pas envie d'être un poids financier pour mon père, qui arrivait à l'âge de la retraite.
Tout comme le père Boyer. Hein.
Exactement.
Vous aviez envie d'être ceux qui allaient un peu être un peu la fierté des parents aussi.
Je suis sorti, en fait, de la ligne un peu que nous imposait notre vie.
C'est ça, avec... sortir de sa classe, comme
exactement,
on dit.
De sortir, exactement. C'est exactement ça, parce que c'est vrai que mes frères sont dans le bâtiment, ma sœur travaille chez Michelin, j'en ai un autre qui est garagiste. Et c'est vrai que ben moi, je suis le seul à être sorti un peu de cet univers-là, du monde
ouvrier,
etc. Et je suis passé sur le monde de la cuisine. Et en fait, j'ai adoré ça, parce que j'ai découvert à 19 ans que ce métier allait me conduire à la réussite si on s'y appliquait. Je ne mourrais jamais de faim. Et ça, c'était quand même pas mal.
Un métier qui va vous faire voyager ?
Oui,
va vous faire rencontrer du monde.
Exactement, c'est un métier qui, dès 19 ans, m'a emmené à Montréal, m'a fait traverser. J'étais le premier. Pour ma famille, j'étais un astronaute, quoi. C'est comme si je voyais de Thomas Pesquet. Et aujourd'hui, je parle toujours de ma réussite au pluriel. C'est on a réussi, c'est la famille. Ce virage-là, c'est toute une histoire familiale d'immigrés portugais qui sont venus s'intégrer en France et qui ont réussi. Le travail, l'activité qu'on fait, elle est hyper importante pour la société.
Est-ce que quand on aime son travail à ce point, comme tous les deux, Père Philippe Boyer et Serge Vera, est-ce que quand on est passionné par son travail et que son travail devient sa vie, est-ce que c'est encore un travail ? Est-ce qu'on peut encore utiliser le mot de travail ?
C'est au-delà du travail, c'est de la passion. Moi, ma grand-mère avait une réflexion, toujours elle disait « ce que l'on garde pourrit, ce que l'on donne fleurit ». Et l'apprentissage, le savoir-faire, eh bien, c'est faire fleurir du bonheur dans le cœur des êtres. Ça, c'est capital. Et c'est premier aujourd'hui. Il faut redonner ce goût-là de l'apprentissage, du travail bien fait. J'apprends à connaître, à savoir ce qui est beau et bon.
J'ai discuté avec beaucoup de monde ici. On trouve des territoires communs avec le micro et avec cette radio qui se balade partout en France. C'est un sésame comme la cuisine pour rencontrer du monde. Et tout le monde me parle d'humilité, de simplicité, de douceur. On la ressent, cette douceur. monsieur le curé.
La douceur se ressent d'abord peut-être aussi dans les traits du caractère du pays, de petites montagnes, des vallons.
Oh ouais.
Ça, c'est une dimension impeccable.
Mais c'est extraordinaire. On a envie de se rouler dans le vallon.
Et puis un appel à savoir regarder la nature telle qu'elle est. Ben, la France est magnifique, oui, mais il faut l'apprécier à sa juste valeur. C'est-à-dire savoir la regarder, savoir voyager dans les divers départements et être un peu curieux de ce que sont les gens.
Je vais faire une petite incartade parce que quand même ça c'est super drôle. Vous avez fait une affiche pour inciter les Saint-Florins et au-delà à venir à la messe. Sur l'affiche il y a écrit « Venez à la messe, n'attendez pas que d'autres vous y amènent ». Il y a une photo avec un cercueil et des gens qui portent ce cercueil pour entrer dans la cathédrale. C'est rigolo comme affiche.
Oui, c'est un amour un peu grinçant, ça m'a valu quelques courriers ou quelques mails.
Qu'est-ce qu'elle veut dire cette affiche ?
L'affiche veut dire, eh bien, que les gens sont libres, tout à fait, mais ils ont besoin de rites. S'ils sont croyants, c'est très bien, ils peuvent revivre dans cette dimension, s'ils ne le sont pas, tant pis. Vous savez, l'autre jour, il y a quelqu'un qui me parlait, qui me disait « Mais monsieur le curé, moi je suis catholique non pratiquant ». Moi je lui ai de répondre « Moi je suis nudiste non pratiquant ». Et heureusement pour eux.
L'humour pour faire venir les gens, l'humour, voilà, c'est pas forcément sérieux non plus la religion.
Il faut beaucoup d'humour, beaucoup de bienveillance, mais surtout les aimer.
J'aimerais bien avoir votre regard sur le monde. Ici on nous a dit « Le père Boyer, c'est un super curé, il est ouvert ». Est-ce que vous êtes ouvert sur les sujets d'actualité qui nous concernent tous et sur cette époque, comme le mariage pour tous, l'avortement, l'assistance pour mourir dans la dignité ? Qu'est-ce que vous pensez de ces sujets-là ?
Alors moi, je suis ni du monde d'hier, ni de celui de demain, je suis dans le monde d'aujourd'hui.
Le monde d'aujourd'hui.
Voilà. Et le monde d'aujourd'hui doit être lié à l'accompagnement et dans le respect des individus. Nous ne sommes pas des hommes qui avons des pouvoirs, du pouvoir sur les consciences. La liberté est première. On n'est pas là pour fuir un accompagnement. On est là pour marcher avec. Et après, le choix ne nous revient pas à nous. Je suis très à l'aise par rapport à tous ces sujets de société.
Le mariage pour tous, vous êtes OK ?
Écoutez, le mariage pour tous, si je vous dis que je suis OK, ça va être mal interprété. Mais je crois que les êtres peuvent s'aimer. Ils sont différents, mais ils peuvent s'aimer.
Vous êtes OK ?
L'essentiel, c'est même pas le mariage, c'est le bonheur qui en découle.
Sur les questions de l'avortement ?
Alors là aussi, c'est du cas par cas. Le pape parle mieux que moi là-dessus sur ce sujet, mais je crois qu'il ne faut pas condamner, mais au contraire, toujours accompagner. Si une femme vient me voir et dit « Mais monsieur, je risque d'avorter pour tel ou tel sujet », on essaie de voir cet accompagnement.
Mais pas de jugement.
Pas condamner, pas vous mettre dehors. Parce que quand on met dehors pour plusieurs générations.
Ça vous dit qu'on aille se balader, Serge Viera ? On va aller déambuler un petit peu dans ce marché de Saint-Flour, qui est un très bon marché, très long. Prends toute la rue.
C'est ça, on y va.
On y va ?
On y va, ouais, vendu.
Vous venez avec nous ?
Je viens avec vous.
Ah, ça c'est chouette alors. Alors, à votre avis, on passe par où ? C'est le meilleur côté, c'est lequel ?
C'est par là. C'est l'allée centrale, ouais.
C'est l'allée centrale. Ils sont comment les gens d'ici ?
Moi je suis du Puy-de-Dôme, hein. Donc le département juste à côté. Et ben moi je les trouve accueillants, tu sais, c'est comme une grande famille. Quand on arrive, et ben bien évidemment on nous regarde, on se dit bah tiens, qu'est-ce qu'il vient faire là? Mais au final, après tout le monde se connaît et on sait qu'on peut compter sur les Cantaliens. C'est ce qui a fait notre réussite d'ailleurs. Notre restaurant, je l'avais dit à l'époque, il ne pouvait marcher que si on avait l'appui des Cantaliens. Et je crois que ça ils l'ont bien compris et vraiment je crois qu'ils sont fiers de ça.
Derrière nous il y a des fromages, rien que des fromages.
On n'est pas là pour faire le régime, on est là pour goûter aux meilleurs produits.
C'est dur de résister ici. Hein.
Oui.
Bonjour Julien.
Bonjour.
Je suis avec Philippe Boyer,
oui,
et Serge Viera. On se balade dans le marché et puis ils m'ont dit « Viens voir ces fromages de chèvre, c'est de la folie ».
Eh bien, il faut leur faire confiance alors. C'est des bons clients. Moi, je me suis installé depuis 5 ans, là, c'est la 5e année, sur une ferme sur une quinzaine d'hectares. L'objectif, c'est d'élever une quarantaine de chèvres et de transformer tout le lait en fromage directement à la ferme.
Donc, Julien, vous êtes d'ici ou vous venez d'ailleurs ?
Non, moi j'ai grandi entre la Normandie et la région parisienne.
Alors qu'est-ce que vous êtes venu faire ici ?
Eh bien, un peu le hasard qui m'a fait arriver ici. Et puis, c'est surtout que je voulais travailler avec cette race de chèvre, la chèvre du Massif Central.
Qu'est-ce qu'elle a de particulier, la chèvre du Massif Central ?
Eh bien, elle est plutôt jolie, elle m'a un peu tapé dans l'œil. Et puis, non, c'est une chèvre qui est rustique, qui est très costaud, qui n'a pas besoin de beaucoup de soins vétérinaires. C'était aussi l'occasion de défendre un peu les races menacées.
On peut goûter ?
Bien sûr, oui.
J'abuse un peu ou pas ?
Non, pas du tout.
Alors là, vous avez pris un moelleux un peu entre deux, on va dire.
C'est un crémeux, ouais. C'est les fromages qui sont coulants à l'intérieur.
C'est délicieux. On sent le lait. On a l'impression de manger du lait solide. Je sais pas comment dire. Péché de gourmandise ?
Non. Parce que c'est partagé. Donc c'est jamais un péché lorsque un mets est partagé.
Ah ouais, vous les péchés capitaux
Si, mais on peut en tenir compte.
On s'en
mais...
fiche. La gourmandise, quoi.
Oui, voilà.
Ça devrait pas être un péché, bon sang.
Mais c'est pas un péché.
Ah, mais...
C'est les choses narcissiques qui sont des péchés.
Les vices et les vertus.
Les vertus, c'est l'excellence, c'est le travail bien fait, l'accompagnement de celui-ci, et le donner à voir, ou à boire, ou à manger.
Et les vices, alors ?
Oh, les vices, il n'y en a plus beaucoup, maintenant.
Ah bon ? Merci Julien.
Avec
comment elle
plaisir.
S'appelle cette ferme alors, on va le redire ?
C'est la ferme des Gardelles, à Lavastrie.
À bientôt.
À bientôt.
Merci.
Merci
Julien.
Attendez, j'en reprends un autre bout pour la route.
Mais elle est habituée parce que c'est une Parisienne, donc
alors
dès
ça, c'est interdit.
Un peu dans le rural, il faut qu'elle mange.
La Parisienne, c'est un petit cliché ça. Hein.
Beaucoup de Parisiens sont auvergnats,
ouais.
Faut
ah oui.
pas l'oublier.
Ah oui, alors pourquoi il y a tant d'Auvergnats ? Ce qu'on appelle la diaspora auvergnate, s'est installée à Paris pour monter plein de restos. D'où ça vient ?
Bah, je pense qu'à l'époque, ils montaient surtout à Paris pour faire du commerce. Oui. Si on veut résumer l'histoire un peu.
Ils ont commencé dans le charbon et après des petits bistrots, etc. Ça a fini par de grosses brasseries, de grosses affaires. Et maintenant, beaucoup d'Aveyronnais, de Lozériens, de Cantaliens ont quelques affaires encore sur la place de Paris. Même si les générations futures devraient prendre conscience du travail déjà fait auparavant pour le valoriser, non le liquider.
Si vous deviez conseiller à nos auditeurs parisiens une bonne brasserie auvergnate à Paris, c'est laquelle ?
Alors moi, j'aime aller à l'Aubrac, par exemple.
C'est où l'Aubrac ?
Alors là, l'adresse, je ne sais pas, puisque je mets ça sur mon GPS ou je demande à mon taxi de...
C'est dans quel arrondissement ?
Aucune idée.
Ouais, bon, on tape sur Google Maps...
L'Aubrac.
L'Aubrac.
Exactement. Et on la trouvera et vous mangerez des viandes de bœuf qui seront maturées, voilà, avec un choix exceptionnel et bon voilà.
C'est combien, tiens d'ailleurs, c'est cher chez vous un menu de base ?
Non.
Un menu bistrot.
Alors bien évidemment, ça a un coût, mais faut pas oublier que dans le coût d'un menu. Bien sûr, on intègre les produits, on intègre notre savoir-faire, mais on intègre aussi des équipes. Moi, j'ai la chance d'avoir pu rassembler 50 salariés aujourd'hui dans nos deux affaires. Et c'est vrai que ce coût, il comprend tout ça. Donc ça varie vraiment. On peut manger dans nos deux établissements entre 30 et 170 euros.
Il ne faut pas oublier que c'est un hôtel-restaurant de macarons le moins cher de France.
Deux étoiles. On va partir dans les étoiles, ça vous dit ?
Oui, si vous voulez.
Hier, je suis allée chez vous. J'ai vu cette cathédrale de Saint-Flour. Un peu sévère, mais magnifique. C'est un gothique un peu primitif.
Oui, c'est un gothique primitif, et puis du premier gothique, mais aussi qui dit la rudesse aussi d'un département.
Donc hier, il était aux environs de 18h. Je me suis avancée vers la cathédrale, et un jeune organiste jouait la toccata et fugue de Bach à plein tube. Et j'ai retrouvé sur le parvis Jérôme Letellier, un apiculteur divin qui a installé ses ruches sur le toit de la cathédrale. Je vous emmène, on va aller faire un peu de grimpette.
On y va.
France Inter. Rendez-vous place du marché.
Jérôme, on s'est mis dans un petit coin de la cathédrale.
On va monter par la tour sud sur ce qu'on appelle les terrasses. Il y a le trésor, il y a 10 ruches. Pour faire le miel de la cathédrale de Saint-Flour. C'est un super spot.
Elles
sont bien haut. Allez, c'est parti.
Alors, on grimpe. C'est un escalier en colimaçon, très étroit, qui a l'air infini.
Il va se terminer à un moment, mais faut grimper.
C'est la tour de Quasimodo, en fait, Quasimodo de Saint-Flour.
Bah, pour le coup, c'est un peu moi, le Quasimodo.
Vous êtes plus beau.
C'est gentil.
C'est là ?
Ouais. Et là, ça y est, on y est. On est sur les terrasses de la cathédrale.
C'est les ruches qu'on voit en face ?
Ouais.
Qu'est-ce que je vous envie de travailler là ? Alors, il y a 1, 2, 3, 4, 5 ruches.
Et il y en a 5 autres à côté.
Avec des prénoms.
Philippe, c'est l'abbé.
Mathieu.
Un copain à qui je tiens.
Et Marceau.
C'est mon filleul.
Ça veut dire quoi, leur donner un prénom ? Ça veut dire que...
C'est surtout pour ne pas leur donner un numéro. À chaque fois que je visite une ruche, je pense à la personne. Et la journée se passe plus vite et mieux.
On va revoir les petites abeilles. J'ai des petites questions à leur poser. Alors, est-ce que si j'approche mon micro, elles vont me piquer ?
Normalement, non.
Le nectar, elle le butine où là-bas, là, dans le...
Juste
dans la forêt verte ?
Voilà. Et il y a toutes les fleurs de la ville. On a beau être au cœur de la ville, on a la nature à perte de vue. Wow.
Est-ce que elles aiment la musique, ces abeilles ?
Elles sont sourdes, les abeilles.
Elles sont sourdes ?
Et elles ressentent les vibrations et les énergies, donc elles ne peuvent pas rester insensibles, c'est sûr.
Vous pensez que ça joue sur le goût du miel, la fabrication, leur manière de faire le miel, d'être au-dessus d'une cathédrale, sans cesse stimulée par le son de l'orgue ou de la cloche ?
Ça peut être que positif.
Alors on le goûte ?
Allez, c'est parti. C'est un miel de montagne, rurbain.
Rurbain.
De la ville et de la campagne.
Je ne connaissais pas encore celui-là.
Moi non plus, je viens de le...
Vous venez de l'inventer.
Ouais.
Il est bon. J'arrive plus à savoir s'il est si bon parce qu'on est là.
Ah.
Parce que la situation
fait que...
Eh oui.
Ou est-ce que il est vraiment exceptionnel ?
Il est vraiment exceptionnel. Parce que j'ai eu l'occasion de le goûter à plusieurs endroits en France et il a toujours le même goût. Il est toujours aussi exceptionnel. Il y a un peu de pissenlit, il y a un peu d'acacia, un peu de géranium, des fenêtres et balcons de la ville. C'est vraiment un mélange subtil.
Il a le goût de Saint-Flour.
Exactement.
Les seins se gonflent et s'abandonnent à la caresse du printemps. Et dans la ruche tourbillonne, prêtes à prendre leur élan. Les abeilles se posant par cent et par mille sur les fleurs qui s'ouvrent à peine, elles butinent leur pistil pour en extraire le pollen. Bzz, 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 bzz. Les abeilles, ces gentilles petites bestioles, fabriquent d'abord de la cire. Elles y font des alvéoles, doux petits nids pour bien dormir. Bzz, 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 bzz. Les abeilles. Mais gare à celui qui s'égare au milieu d'elles par hasard. Il aura beau s'enfuir dardard, il sera piqué par le dard. De l'abeille. Quand vient le grand jour de la ponte, la reine doit faire de son cordon. Et dans l'azur elle monte, monte, poursuivie par tous les bourdons. Ça va être sa fête. C'est celui qui la rattrapera qui sera le bourdon papa. Mais tout de suite après il mourra pour avoir donné tout ce qu'il a.
C'était Bourville qui chantait les abeilles cette saison.
France Inter. Rendez-vous place du marché. Aurélie Spez.
Et vous êtes toujours sur France Inter, on a rendez-vous place du marché et on est bien ici au marché de Saint-Flour. Je vous laisse, Philippe Boyer.
À très vite et au plaisir de vous revoir dans notre haute terre d'Auvergne. Maintenant, je vais aller chez moi me préparer un bon déjeuner.
Qu'est-ce que vous allez faire à manger ?
J'ai du rôti à la maison, donc je vais faire un peu de rôti, quelques blettes, voilà.
Bon appétit.
À très bientôt.
À bientôt. Serge Vérard, je vais vous laisser aussi parce que vous avez du boulot, vous devez aller au resto.
Oui, alors je vais retrouver mes convives qui vont arriver dans 10 minutes.
Je vous laisse cavaler jusqu'à Chaudes-Aigues, dans ce magnifique établissement, le château du Coufour.
Merci beaucoup.
Vous êtes toujours sur France Inter, on est bien, on est tranquille et on a rendez-vous place du marché. Et je me redirige vers le bistrot chez Gréco. On est ici à Saint-Flour, dans ce Cantal monumental. Et vous nous avez rejoint, Françoise Itier, bonjour.
Bonjour Aurélie.
Et vous aussi Monique Chabasseur, bonjour.
Bonjour, ravie d'être avec vous.
Alors Françoise Itier, vous avez été sage-femme pendant 43 ans à la maternité ici à Saint-Flour.
Oui, en fait, j'ai d'abord fait un remplacement d'été après mes études et ensuite je suis partie travailler 3 ans à Millau pour revenir sur Saint-Flour et y faire carrière.
Et vous, Monique Chabasseur, vous êtes infirmière libérale à la retraite et vous êtes bénévole de l'association France Alzheimer, ici à Saint-Flour.
Oui, c'est exact, depuis 2014.
sage-femme et femme sage, donc.
Oui, tout à fait. En fait, l'origine du mot sage-femme, c'est... Donc, femme, c'est la sagesse en général. Toutes les femmes sont sages.
Pas toutes.
Et sage, c'est le savoir. Il faut remonter au XVIe siècle pour... voilà.
Je vous trouve très jolies toutes les deux. Je ne sais pas si vous avez le même âge...
Vous savez, on demande l'âge à une femme, mais on lui donne des fleurs.
J'ai pas de fleurs. Il y a un très très beau fleuriste dans le marché. Non, je ne veux pas savoir votre âge.
Je suis née en 1953.
54.
Je pense que si vous nous trouvez belles, c'est qu'on est heureuse de vivre la vie que nous avons, de donner aussi du temps aux autres.
Ça vous fait du bien de faire du bien?
Oui, tout à fait. Quand on choisit une profession, il y a beaucoup de son caractère aussi qui passe, je pense, dedans.
Françoise Itier, vous avez donné naissance à combien de bébés?
Je pense largement 3000 sur 43 années. Largement.
À l'époque où vous étiez plus jeune, Françoise Itier, on ne voyait pas beaucoup les papas dans les salles d'accouchement. Maintenant, on les voit. Maintenant, les papas sont complètement investis dans l'accouchement. Mais quand vous étiez plus jeune ici, les papas, ils n'étaient pas là, hein.
Mais en fait, je pense que c'est avec ma génération que les papas ont commencé à venir dans les salles de naissance parce qu'on a mis en place la préparation à la parentalité. On demandait aux papas de venir par l'intermédiaire de leur femme et préparer avec un couple, c'était complètement différent. Il y avait les deux tiers de papas. Et vraiment, il y en a encore que je trouve sur le marché ou dans d'autres occasions et qui me disent, mais madame Itier, oh là là, ces cours de préparation à la naissance. Et puis qu'est-ce qu'on se marrait, qu'est-ce que c'était sympathique, voilà.
Et il y a comme un retour, moi je vois dans ma génération, de femmes qui décident d'accoucher naturellement, sans péridurale. Comment est-ce qu'on aborde cette question-là? Parce que quand même, sans péridurale, ça fait mal, hein.
Je leur disais toujours, vous parlez de douleur, mais moi je parle de contraction.
Et ouais, la contraction, ça fait mal, hein, je peux vous le dire. Parfois, quand on est une femme et qu'on va accoucher, on se dit que sans péridurale, ce sera mieux, qu'on sera plus forte, et puis il va falloir qu'on allaite. Mais parfois, on n'a pas envie. L'allaitement ne se passe pas forcément bien. Donner un biberon, c'est aussi partager avec le papa. Il n'y a pas de règle absolue, il n'y a pas d'absolu.
Oui. Non, il n'y a pas d'absolu. Moi, j'ai toujours respecté les gens. Lorsque j'ai débuté sage-femme après mes études, j'aurais bien aimé, pour certains accouchements, de pouvoir faire une péridurale. Voilà, quand c'était très long, quand on avait du mal, on avait pourtant un bon panel de médicaments à l'époque pour faire avancer le travail, mais que j'aurais bien aimé pouvoir appeler un anesthésiste pour faire une péridurale. J'ai aiguillé les gens, voilà, mais je ne les ai pas forcés. Forcer une maman à allaiter, c'était complètement ridicule. C'était lui faire de la peine aussi, à un moment où elle venait juste d'accoucher, de rencontrer son bébé.
Je trouve qu'on reste peu de temps à l'hôpital ou à la clinique une fois qu'on a accouché. On rentre assez rapidement avec le bébé dans les bras et ce nouvel être avec qui on fait connaissance. On aimerait peut-être être un peu plus accompagné. 3 jours, c'est court.
Pour un premier enfant, c'est trop court parce que la montée de lait se fait vers le 3e jour. On rentre à la maison avec une montée de lait pendant laquelle on ne va plus savoir quoi faire parce que le bébé ne va pas bien tirer. Je suis entièrement de votre avis. Pour moi, c'est trop court, mais c'est une question de coût.
Pour libérer la chambre.
Voilà.
Parce que c'est quand même un bouleversement fondamental. Et on ne nous dit pas tout. On a l'impression que ça va être quelque chose d'idéal, de merveilleux. Et parfois, c'est plus compliqué que ça. Hein.
Écoutez, moi, je leur montrais l'envers de la chose aussi. Hein. Je leur disais, profitez bien de vos grasses matinées parce que c'est terminé. Puis je disais aux mamans, surtout tout ce qui s'est dit ce soir pendant la séance, il faut en parler à vos conjoints et leur expliquer un maximum pour ceux qui ne pouvaient pas venir à cause de leur travail.
Françoise Itier, vous avez exercé ici, dans le Cantal, en milieu rural. J'imagine qu'il y a des trajets à faire. Ça ne doit pas être pareil qu'être sage-femme en ville. La différence, elle se situe où?
Je pense que déjà en milieu rural, on connaît beaucoup plus de gens. Ah, mais vous êtes madame Itier, vous habitez à tel endroit, on connaît votre mari, etc. Moi, je fais le marché et le nombre de mamans qui me croisent avec leurs petits dans les landaux, on s'arrête, on discute, les grands-mères qui me parlent de leurs accouchements. Et madame Itier, vous souvenez, ça a bien changé quand même les accouchements.
Mais c'est ça, vous devenez un visage inoubliable pour les gens.
Oui, je pense, un peu, oui.
Monique Chabasseur, vous écoutez Françoise Itier avec intérêt. Être infirmière ici à la campagne, on est loin de tout ou on est près de tout?
On rencontre toutes sortes de personnes, des gens qui se sont repliés sur eux. Ils refusent de l'aide et quelquefois on y arrive avec du temps, de la patience, de la douceur. On arrive à ouvrir la porte et de faire en sorte que, par exemple dans la maladie d'Alzheimer, il est important que les dents connaissent un peu le mécanisme de la maladie pour assurer un quotidien à domicile en toute sécurité. En fait, on ne connaît pas la cause exacte de la maladie d'Alzheimer. On ne connaît pas ce qui provoque ces troubles, qui entraînent des troubles cognitifs, de l'identité, qui est terrible pour un malade qui ne se reconnaît plus.
Monique, vous allez nous présenter quelqu'un qui a un stand sur le marché.
Oui, tout à fait, Isabelle.
Ça vous dit qu'on y aille toutes les deux? On va retraverser dans l'autre sens le marché et puis on va aller à la rencontre d'Isabelle. On y va? Allez.
J'aurais juste voulu vous dire que j'ai été passionnée donc, pendant 43 années et que j'ai adoré tous mes petits touts qui naissaient. Je leur donnais...
Tous vos bébés.
Je leur susurrais un petit mot dans les oreilles pour leur vie entière.
Si vous deviez donner un conseil aux mamans qui nous écoutent, qui viennent juste d'avoir un bébé, et aux papas aussi.
Je pense qu'il faut faire appel aux sages-femmes libérales pour un accompagnement, justement, par rapport au baby blues, parce qu'il y a encore plein de choses à savoir quand c'est un premier bébé.
Et on peut appeler une sage-femme libérale comme ça, passer un coup de fil et c'est remboursé par la Sécurité sociale, c'est pris en charge?
Oui, normalement, oui. Oui, oui, puisque, justement, le retour à la maison au bout de 3 jours, normalement, il doit y avoir une continuité de soins et de surveillance par la sage-femme libérale.
Donc, il ne faut pas hésiter.
Voilà, il ne faut pas hésiter.
Merci beaucoup, Françoise Itier.
Eh bien, merci à vous. Au revoir, Aurélie.
Au revoir Françoise, rentrez bien.
C'est hier que je rentre de la monnaie.
Monique, on est reparti avec vous. On a quitté le café chez Gréco. On remonte le marché de Saint-Flour pour aller à la rencontre d'Isabelle Bayadjan.
Bonjour.
Isabelle, je viens vous voir Isabelle. Je fais le tour, je peux passer derrière le stand? Il est très très beau votre stand Isabelle.
Merci, c'est gentil.
Il y a des petits coussins.
Des coussins, et ben, des trousses.
Vous êtes couturière?
Je suis couturière.
Isabelle, parlez-nous un peu de ces cafés mémoire. On a squatté le bistrot chez Gréco. Oui. Et c'est aussi dans ce bistrot que vous faites les fameux cafés mémoire.
Tout à fait. Donc nous nous réunissons là-bas pour pouvoir se retrouver entre personnes aidantes.
Alors moi j'ai une question. La définition de l'aidant. L'aidant, c'est quelqu'un qui vit avec un mari, un papa, un parent, qui n'a pas de statut d'auxiliaire de vie, qui n'est pas infirmier, c'est juste un membre de la famille qui s'occupe H24 de son père ou de sa mère ou de son mari qui a une maladie, et là en l'occurrence la maladie d'Alzheimer. C'est bien ça?
C'est ça, tout à fait. C'est être disponible et à la fois accepter et apprendre. Le problème, c'est qu'on apprend sur le tas. La personne peut être agressive, la personne peut être très fatiguée physiquement et ça demande énormément à l'aidant d'arriver à s'adapter à cette nouvelle situation, sachant que d'autant plus quand c'est un membre de la famille,
quelqu'un qu'on aime.
Voilà, on est démuni et affaibli. Ces aidants ont vraiment besoin d'être accompagnés car psychologiquement, ils sont atteints aussi.
Parce que d'abord, il y a une histoire d'amour, admettons, entre un mari et une femme, et il y a beaucoup de culpabilité. On a envie d'être là, on a envie d'assurer, et on n'a pas les clés.
Dans un premier temps, quand on apprend cette maladie comme ça, quelque part ne comprend pas de comment ça se fait qu'en quelques mois,
si peu de temps, quelques
tout bascule.
Mois.
Voilà, tout peut changer. On a beau être aidé, faut accepter que c'est un changement, c'est pour toute la famille et d'autant plus pour l'époux ou l'épouse qui doit s'occuper de la personne malade 24 heures sur 24.
Est-ce qu'elle est toujours taboue cette maladie?
Ça fait peur aux gens de dire aux autres que un de leurs proches soit malade de cette maladie, comme s'il y avait une honte. Et en fait, il n'y a pas de honte à avoir. On laisse tomber tout ça et on se dit non, il n'y a rien de dramatique à dire que mon papa ou ma maman est malade d'Alzheimer. Et au contraire, ça nous permet d'agir et de dire comment faut-il faire pour les aider concrètement.
Est-ce que la personne qui est atteinte de la maladie d'Alzheimer en a conscience qu'elle est atteinte de la maladie d'Alzheimer?
Pour certains, oui. Et c'est troublant d'ailleurs parce qu'ils sont quelque part très touchants, ces patients qui sont conscients.
Oui. Est-ce qu'il faut leur dire?
Ils aident. Moi, je pense qu'il faut être honnête. Cette honnêteté logique et légale presque permet aussi à tout le monde d'accepter cette maladie.
Et je voulais dire que certains malades, en fait, lorsqu'ils présentent les premiers troubles cognitifs, ils ne l'avouent pas. Ou alors ils disent à leur conjoint. C'est un secret.
Ou alors ils trouvent des trucs et astuces aussi.
Ils trouvent des stratégies qui leur permettent de mener une vie assez normale.
Et puis bon, après, c'est pas tous les jours facile parce qu'ils peuvent être aussi agressifs. Et c'est quelque chose qui va nous toucher tous, moi. Mais vous, tout le monde pourra. On est vraiment concernés à 100% tous pour que localement, chez tout le monde, il n'y a pas d'hôpital de jour à Saint-Flour. Il faudrait tous qu'on se mette d'accord. Merci.
C'est notre lutte.
Et merci à Sabine et merci à France Alzheimer pour tout ce qu'ils font.
Merci à toutes les deux.
Merci à vous et on espère que les personnes viendront à la formation en septembre ou se mettront en contact avec France Alzheimer.
On va mettre tout ça sur le site de l'émission.
Et on est là pour aider, informer, et de façon à ce que tous les aidants soient à l'aise et puissent libérer leurs paroles en toute sincérité.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir Monique.
Merci.
Je retourne chez Franck Gréco, moi. On nous attend pour l'apéro. Le temps d'écouter un disque. On va écouter J. Cole et Lil Baby. Le titre du morceau, c'est
Pride is the Devil.
Good.
Pride is the devil. Think it got a hold on me. Pride is the devil. It left so many R.I.P. Pride is the devil. Think it got a hold on me. Pride is the devil. Terrified, paranoid, I put you over everything to fill the void. And when you're gone, will I have anything or will I be destroyed? Paranoid, I put you over everything to fill the void. And when you're gone, will I have anything or will I be destroyed? Yeah. Bright lights pass me in the city, it's emergency. I'm thankful cause I made it past my 30s, no one murdered me. Still remember vividly the nigga that pulled a gun on me. I'm petrified but moving like I got no sense of urgency. Pride make a nigga act way harder than he really be. Pride hide the shame of city, cut off all utilities. Pride hide the pain of growing up inhaling poverty. Pride make a nigga feel a way that you won't follow me. Make a nigga flash a thousand like he hit the lottery. Make a baby mama make shit harder than it gotta be. Make you have to take the bitch to court to see a prodigy. Make you have to use your last resort and pull a robbery. Pride be the reason for the family dichotomy. Got uncles and some aunties that's too proud to give apology. Slowly realizing what the root of all my problems be. It got me feeling different when somebody said they proud of me. Pride is the devil. I think it got a hold on me. Pride is the devil. And it left so many R.I.P. Pride is the devil. I think it got a hold on me. Pride is the devil. Yeah. Pride is the devil. I think it got a hold on me. Pride is the devil.
Et nous sommes toujours ici, au marché de Saint-Flour dans le Cantal, en Auvergne, et sur France Inter dans toute la France.
Saint-Flour, c'est la plus belle ville du monde.
Et je vais rentrer dans le bistrot de Franck, Franck Gréco, qui nous attend derrière le comptoir. Je fais le tour, je passe par là. Franck Gréco.
Oui, bonjour.
Rebonjour.
Rebonjour.
Remercie de nous accueillir chez vous.
Ouais, c'est un peu le grand rush, la course.
On s'est mis derrière les tireuses. Ce comptoir, c'est votre maison.
Voilà, et moi je suis né ici pratiquement, hein, parce que moi, mes parents ont créé cet établissement en 1980. Je l'ai fait vivre à ma façon. Parce qu'en étant musicien, je voulais donner donc ce côté. J'ai fait pendant une vingtaine d'années, je faisais des soirées cabaret. Donc tous les week-ends, on faisait des soirées cabaret. On fait toujours d'ailleurs. Hein.
Alors c'est ça, vous chantez, Franck?
Voilà, j'ai eu la chance d'avoir le don de la musique par le biais de mon père.
Il était musicien?
Il était, voilà, il faisait de la basse, il était contrebassiste même.
Donc, et votre mère aussi?
Non, ma mère non. Ma mère était serveuse. Donc c'est elle qui m'a donné un peu le goût du service. Donc,
vous faisiez de la musique tout le temps chez vous?
Ah oui, tout le temps. Moi, je peux pas vivre sans musique.
Et votre papa, il faisait quoi?
Il jouait du bal, l'orchestre de bal à l'époque, avec des amis émigrés italiens.
Parce que Gréco, c'est italien.
Ouais, Gréco, c'est calabré. Il est arrivé après la guerre avec ses parents, qui étaient dans la maçonnerie. France, ils avaient besoin de main-d'œuvre.
Et votre père, quand il s'est mis à bosser ici à Saint-Flour, il était jeune alors?
Ah, il avait 11 ans.
Franck Gréco, vous vous sentez italo-auvergnat?
Je me sens Saint-Florin déjà à la base, parce que je suis né ici, hein, dans ma ville. Donc,
ça veut dire quoi être Saint-Florin?
Pour être Saint-Florin, c'est quand même un privilège, moi je trouve. on a une vie quand même paisible et moins stressée, quoi. On arrive à bosser comme dans certaines grandes villes, tout en étant... Moi, j'habite à 3 km, donc je suis à la campagne. Vous voyez, donc il n'y a pas de stress, quoi.
Et alors, vous, Franck, vous aviez un groupe...
Alors, j'ai commencé, moi, à l'âge de 13 ou 14 ans, je faisais déjà de l'orchestre musette. Je jouais avec un ami qui s'appelait Pascal Poutarel, à l'époque. On jouait à deux. Après, j'ai évolué. Je suis parti dans un orchestre où on était 5 ou 6 musiciens en Haute-Loire.
Donc, musette, c'est bal de village?
C'est ça, bal, variété de village. C'était fabuleux. Hein. Ouais, on faisait des obades le matin, vous savez, c'était super. Quoi. C'était, moi, j'ai eu une vie extraordinaire. Hein. Ouais, j'ai beaucoup roulé. Hein. On s'est régalé. On a fait ça pendant 10 ans en parallèle de mon orchestre. J'ai même fait un spectacle qui s'appelle La Guinguette du Lander, que j'ai organisé il y a 5 ans. C'était super. Il y avait 400 personnes à table qui mangeaient pendant mon spectacle. Ouais, c'était bien. Et après, en 2004, j'ai fait un concours SACEM que j'ai gagné et je suis parti en tournée avec Jeanne Masse. Donc, je faisais la première partie tous les soirs. Donc, c'était bien, quoi. C'est une belle expérience musicale et scénique. C'était le top. Voilà. Et donc, j'avais fait un premier album que j'avais enregistré dans mes studios ici, en album cassette, avec une chanson qui m'a rendu célèbre ici, qui s'appelait Petit Fredo.
Et pourquoi Petit Fredo?
C'était un ami qui venait souvent en bas, qui s'est tué en voiture. Ils n'avaient pas vu, ils allaient écouter le Brame du Cerf, ils ont une excellente voiture, tout bête, quoi. Petit Fredo, tu es parti en nous laissant tous orphelins. Tu as planté tous tes amis pour un voyage un peu trop loin. Petit Fredo, tu es trop loin.
C'est super, voilà. Vous aimez ça, Petit Fredo?
Ah oui, je ne peux pas la chanter. Je chante jamais en spectacle ou très peu.
Voilà. On va boire un coup pour Fredo.
Allez, pour lui, ouais. Une petite bière?
Une petite bière.
Allez, ouais. C'est parti. On se la sert?
Il y a une bière d'Auvergne ici?
Alors, j'ai la bouillie, hein, mais je l'ai en bouteille. Qui est fabriqué par la maison Haute-Bert à Clermont-Ferrand.
À la vôtre, Franck. Vous savez qui on va recevoir maintenant? On va voir Guy Brun, vous le connaissez?
Oui, c'est quelqu'un de très connu. Celui-ci, ils ont beaucoup fait partager la musique traditionnelle. C'est une ambiance qui est fort sympathique. Les gens sont cool. No stress, voilà.
Vous avez l'air tellement sympa.
Non, moi, je suis heureux.
Non, vous n'êtes pas sympa?
Si, je suis heureux de nature. Ça, ouais. Parce que je sais où j'habite. Donc, je suis de culture occitane, de pays occitan, et puis je suis de ma Margeride, qui est la longue montagne qui est juste à côté. Donc, tout va bien.
On se boit une petite bière, là. C'est une bière auvergnate qu'on déguste, oui, avec Franck Gréco. On a parlé musique. Vous voulez la goûter? Parce qu'elle est vraiment, elle fait du bien, là. Elle réfléchit, hein.
En fait, moi, j'évite de boire de la bière parce qu'on me dit après que ça me fait un gros ventre. Mais en revanche, je viens de boire un pelou. Donc, le pelou, c'est un kir châtaigne. C'est du blanc avec de la liqueur de châtaigne qui vient de la châtaignerie, voilà. Donc toujours dans le Cantal.
On peut goûter les bières loup?
Oui, hop,
avec modération. Hein.
Donc, c'est ce qu'on fait boire à nos sans florins.
C'est une bière loup.
Voilà, c'est. Voilà. Hop, la bière au birlou.
La bière au birlou.
Voilà.
Oh, c'est super bon. C'est très bon. Ça fait comme une bière à la pomme un peu.
Il y a une petit parfum de châtaigne qui est derrière, parce que quand même dans le Cantal, il y a la châtaigneraie. L'arbre roi, c'est le châtaignier. Mais moi, j'ai travaillé sur ce secteur, puisque je l'aurais créé, ça fait maintenant plus de 20 ans, la maison de la châtaigne, pour la relance du châtaignier.
Vous êtes aussi, Guy Brun, pour la relance de la musique traditionnelle. Nous, on le sait, la musique trad, c'est le futur.
Oui, c'est-à-dire que... Je suis toujours le directeur artistique d'une compagnie de danse qu'on a créée en 1999, qui s'appelle la compagnie Cantalas. Et le spectacle que nous avions créé, la commande, c'était « il faut qu'on ait quelque chose de contemporain et un peu de ritualisé ». Et nous avions inventé avec Thérèse Canet, une conteuse, le mythe fondateur de la création du Cantal. Avec
alors, qu'est-ce que c'est que le mythe fondateur de la création du Cantal, Guy Brun?
C'est le géant Cantalas qui était là et qui essayait de sortir, et puis il est sorti en volcan et il a occupé l'ensemble du territoire. Et quand on regarde bien la carte du département du Cantal, on a le nez, on a les yeux, on a la bouche de ce géant Cantalas qui est formé par les différents monts, du Puy-Marie au Puy-Griou, du Puy-Griou au pont du Cantal, avec les vallées, on a Cantalas qui est en vue.
Dans Cantalas, il y a Cantal, mais il y a aussi chanté.
Absolument, il y a chanté, il y a joué, il y a dansé, parce que je crois que c'est ça un pays. Un pays, il faut que ça vive. On a une danse en particulier ici.
Alors, on a la bourrée.
C'est la bourrée.
On a la bourrée auvergnate, tac, plancher des vaches. Oui. Mais cette bourrée auvergnate, on l'adore. Mais vous la revisitez. Absolument. Vous la retwistez, vous la punkisez. Absolument. Vous la rock'n'rollisez.
Et ça fonctionne bien.
Guy Brun, spécialiste S-bourrée auvergnate, musicologue de la bourrée. Elle vient d'où cette bourrée?
La bourrée, ça se tape avec les pieds, hein, et ça se tape tellement qu'on retrouve, à une fois, à force de taper, on enlève l'herbe et on retrouve le roc.
Mais on retrouve le roc.
Eh oui! Moi, ce que j'aime dans ce travail qu'on fait, c'est arriver à créer un effet transe. Et je peux vous dire que la bourrée peut être une musique de transe. Mais vraiment, vraiment, vraiment.
On sort de ce café, Guy Brun. Oui.
Donc, on a une partie des Cantalassous qui sont là à la terrasse de chez Gréco. On est très bien là.
On a Patrice Alavi à la roue, Jean-Louis au violon. Bonjour.
Bonjour. Il y a Maggie, il y a Nathalie.
Bonjour.
Et il y a Violette.
Bonjour.
Vous déambulez comme nous?
Ah ben oui, on déambule. C'est important d'occuper les places et les rues.
Qu'est-ce que vous allez nous jouer, chanter?
Ah ben tiens.
C'est quoi ce morceau?
Eh ben, on va parler dans la langue. Loumis des mailles. Loumis des mailles, loumis d'abrio, loumis de la biulette. Le premier bouquet que bousse fareille à ma mille loudou d'areille. Le mois de mai. Le mois d'avril, le mois des violettes, le premier bouquet que je ferai, c'est à mamie que je le donnerai.
C'est parti pour la bourrée?
La mène les perdra. A questa mese paura e versi plaisa di usera verta. A questa mese paura e versi plaisa di usera verta. Vedrà la bacio ruggio che sera io che la mène les perdra. Sei d'arriva la bacio ruggio che sera io che la mène les perdra. A questa mese paura. Si plaisa di usera verta, a questa mese paura e si plaisa di usera verta. Zei d'arriva la bacio ruggio che sera io che la mene le pepla. Zei d'arriva la bacio ruggio che sera io che la mene le pepla.
Ça envoie, ça envoie, à fond. Mais c'est ça, Cantalas.
Il y a un petit couple papy-mamie là, qui se sont mis à danser au milieu du marché.
Mais de toute façon...
Ça arrive tout le temps, ça.
Mais oui, parce que c'est une danse d'appel. Et d'un seul coup, c'est autre chose.
Non, mais c'est de la transe, c'est chamanique.
C'est ce que je vous dis, c'est chamanique. Puis ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça nous émeut. Je vois que vous êtes ému, ça me fait plaisir.
Vous voyez. Vous voyez, Guy Brun, ça me donne chaud, en fait.
Mais je suis content, ça vous donne...
Derrière nous, là, quand on regarde tout ce qui nous entoure, ces volcans, on a quand même l'impression qu'il y a quelque chose de mystique qui se passe en Auvergne.
Vous savez...
Il y a de la magie, un peu.
Ah, écoutez, moi, j'ai beaucoup travaillé sur les volcans et sur le mythe autour des montagnes et des volcans. C'est certain que entre les fées, entre les fades, entre les géants et autres qui occupent les vallées, les forêts et
les sorcières.
Ah, mais bien sûr. Mais oui, il y en a ici. Et tant mieux. Cette façon de chanter, cette façon d'appeler d'une montagne à l'autre, et qu'on s'appelle la montade, et après ce qu'on la dabalade, la montée et la descente.
Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci, merci. Sans Florin, sans Florène, Cantalien, Cantalienne, merci et à très bientôt ici en Auvergne ou ailleurs.
C'est Charles de Silvia qui a réalisé cette formidable émission.
Cette émission a été préparée par Raphaël Pluskova.
Vous pouvez réécouter et podcaster cette émission sur le site de France Inter.
Et lundi, vous retrouvez Antoine Lee à Sablé-sur-Sarthe dans le pays de la Loire.
À une autre fois.
À une autre fois.